Bonsoir. Alors, à la sortie, vous aurez de la littérature payante, parce que Fakir dit ça. Maintenant, là, pour l'instant, vous avez un truc qui est gratuit. C'est marqué dessus, c'est « Ceci n'est pas un journal ». C'est pas un journal, c'est de la propagande. À l'intérieur, ça, c'est comme un artichaut, faut enlever, c'est une série de 4 pages. C'est de la présentation du film, c'est la présentation du journal avec un bulletin d'abonnement, c'est une affiche de promotion du film, c'est une affiche de promotion du journal, donc c'est à coller dans vos toilettes ou au lycée, au collège, sur la cabine téléphonique, ça n'existe plus. Enfin, voilà. Donc ceux qui veulent en avoir un, ils lèvent la main et c'est donné, mais par contre, derrière, il faut bosser, il faut le distribuer, tout ça, quoi. Et la deuxième chose, c'est on va faire passer dans les rangs des trucs pour recueillir vos adresses mail, parce que quand on n'a pas l'argent, il faut les gens. Et donc si en fait, vous serez autorisé à sortir, seulement si c'est convenablement rempli. Donc, qui veut un journal, enfin un non-journal, lève la main.
Bonjour, le Parti de Gauche a organisé 2 projections au cinéma Le Concorde à Nantes de Merci Patron. Ces projections ont été suivies d'une rencontre avec le réalisateur du film, François Ruffin. François Ruffin, aussi fondateur et rédacteur en chef du journal Fakir, nous précise la genèse de son documentaire.
C'est une provocation du hasard, on va dire. Moi, je viens pour proposer quelque chose. Donc, j'enrôle des gens dans une croisade. Une croisade qui est la réconciliation de la France d'en bas et de la France d'en haut. Donc, la France d'en haut, c'est celle de Bernard Arnault, première fortune de France, patron du plus grand groupe de luxe au monde, LVMH. Et j'enrôle des gens dans une croisade, un inspecteur des impôts belge qui a révélé l'existence d'une fondation de Bernard Arnault en Belgique pour défiscaliser ses impôts, une bonne sœur rouge qui a assisté à la naissance de la fortune de Bernard Arnault, des ouvriers et ouvrières licenciés par le groupe LVMH, sous-traitant, et puis des gens de la Samaritaine qui eux aussi ont perdu leur boulot parce que Bernard Arnault est passé par là et a décidé d'en faire un hôtel de luxe et des magasins de luxe. Donc voilà, j'enrôle les gens pour intervenir en assemblée générale des actionnaires et les choses ne se passent pas comme on l'imagine et je pense que la réalité dépasse du coup de loin la fiction. Je pense que j'aurais jamais pu écrire un scénario comme celui-là et que si quelqu'un avait écrit un scénario comme ça, on l'aurait jugé peu crédible, quoi.
Allons-y pour le débat. Bonsoir. Je voulais savoir en fait ce qu'ils étaient advenus suite à la fin du film en fait par rapport à LVMH. Si vous avez eu des rapports encore avec.
Alors après, moi j'ai eu un an et demi de contact très régulier avec le commissaire parce que s'est établi entre mon Jérémy et mon commissaire des rapports quasi filiaux et paternels. On se racontait nos vies au téléphone, on regardait les matchs de rugby à distance, mais on se commentait. Moi, je faisais des crises d'épilepsie en direct. Enfin, il y avait un certain nombre de facéties de cette nature, quoi. Maintenant, j'ai pas trop de nouvelles, sinon j'ai pas eu trop de nouvelles de LVMH après. Et pour l'instant, j'ai pas convié Bernard Arnault parce qu'il y a des étapes qui sont pas complètement finies. Quand on n'a pas eu de sous pour terminer le film, là, juste à mon avis, ça va être le 23 février à 23h59, avant la sortie en salle, qu'on va avoir la version définitive du film. Parce que là, il y a l'étalonnage, le mixage qui n'ont pas été faits. Et comme Bernard Arnault est le patron d'un grand groupe de luxe habitué aux produits de luxe, je ne peux pas me permettre de lui envoyer un film qui ne soit pas complètement fignolé.
Une lutte, c'est de s'adapter au terrain. Et là, de toute façon, c'est un film d'action. On monte une action et on ne sait pas comment une action va se dérouler. C'est une aventure. Une aventure, c'est on ne sait pas ce qui va advenir. Et moi, je l'ignore. Les gens qui sont avec moi l'ignorent. Et de la même manière, les spectateurs ignorent ce qui va se passer dans les 5 minutes qui suivent, quoi.
J'ai une question dans la salle, même si j'ai le t-shirt. J'aimerais bien que tu nous dises, c'est vrai que tout le temps tapé comme ça sur Bernard Arnault, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Bernard? Est-ce que tu peux nous dire, revenir un peu à l'origine du film, pourquoi Bernard Arnault? Il y en avait plein d'autres.
Alors, taper sur Bernard, moi je fais tout quand même, vous l'avez compris.
Je sais bien, mais personne n'est dupe dans cette salle.
Vous croyez? Il peut y avoir une raison à l'origine. Bon, j'ai aucune sympathie. Lagardère, j'ai fait du Lagardère aussi. Hein. J'ai fait du Pinot, j'ai fait du Mullier, de la famille Auchan. Je veux dire, j'ai déjà donné quand même dans une certaine diversité. Il ne faut pas croire que je sois monomaniaque complètement. Maintenant, peut avoir une certaine préférence quand même.
J'ai un attachement particulier pour la première fortune de France, puisque l'origine de sa fortune, c'est à côté de chez moi, et que j'ai vu les gens vivre dans la misère à côté de chez moi, et que j'ai établi un lien de cause à effet entre l'origine de l'un et la pauvreté des autres, quoi.
La première idée, c'était d'acheter une action pour directement confronter les petits actionnaires avec le grand patron.
Ouais, mais j'avais déjà fait ça en 2007 avec Marie-Hélène Bourlard, la déléguée CGT de CCE. Elle était intervenue en Assemblée Générale des Actionnaires sur mes conseils et on avait diffusé ça dans l'émission « Là-bas, si j'y suis » Daniel Mermet. Et c'était un moment tout à fait poignant parce que rares sont les endroits où le capital est directement confronté au travail, aux travailleurs. En général, le capital a des moyens de tenir les travailleurs à distance. Alors on le voit, c'est parfois des vigiles quand ça tourne mal, mais en général, ce sont des conseillers en communication qui sont des conseillers en non-communication. Ce sont des experts sociaux, des cabinets de reclassement, enfin du consulting, ce genre de choses-là, qui ont pour fonction d'atténuer par le verbe la violence symbolique du capital, en l'occurrence des licenciements, des suppressions de postes, des salaires en moins pour les travailleurs. Et donc voilà, il y a tout ça, tout ce travail mis à distance. Et quand on se retrouve dans une assemblée générale, dans cette assemblée générale-là, en l'occurrence en 2007, on avait en direct la confrontation du capital et du travail, Marie-Hélène Bourlard interpellant Bernard Arnault au nom des 147 salariés qui étaient juste derrière la porte avec des élus et ainsi de suite et qu'on entendait crier à travers les parois de l'Assemblée Générale. Et puis de l'autre, Bernard Arnault lui répondant mondialisation, européanisation, bas coût de main-d'œuvre, dividendes et ainsi de suite. Un espèce de dialogue de sourds, mais où en même temps, il y avait... Pour une fois, on pouvait aller perturber les PDG, quoi.
Je voulais juste te remercier, parce que j'ai vu... je vois plusieurs films en ce moment, dont j'ai vu demain, aujourd'hui, ton film. Et dans ton film, il y a une phrase qui m'a un peu fait plaisir. C'est une phrase, à un moment...
Dite par l'intermédiaire.
En caméra cachée, il dit... mais c'est pas Hollande qui vous fait peur, c'est pas... Et lui-même répond, non, c'est pas eux, c'est vous, quoi. Et du coup, bah voilà. Merci parce que je pense
il dit pas c'est vous.
Parce non, que il dit pas c'est vous en face, mais il dit c'est des agitateurs comme nous. Enfin, comme nous on peut être, comme nous on devient. Et je pense qu'il y a une espèce de mouvement un peu, enfin j'espère. Et voilà, ça vient conforter ces mouvements-là.
Pourquoi les clures ?
Bah, d'une part, parce que moi, toujours pour l'émission Là-bas, si j'y suis, j'avais été faire deux ou trois années après l'intervention de l'Assemblée Générale, qui avait quand même conduit à l'époque à une amélioration du plan social, enfin l'existence d'un plan social, parce qu'en vérité, il n'y en avait pas. Les nanas partaient en slip et en soutif, si jamais on n'était pas venu perturber l'AG, elles avaient le droit à rien. Bon, finalement, il y a eu une cellule de reclassement, il y a eu des droits rallongés, il y a eu 20 à 30 000 euros d'une enveloppe, il y a eu des postes sauvés sur un site logistique. Bon, voilà. Mais donc, j'avais fait une tournée de que sont devenus les anciens salariés de CCE, l'entreprise s'appelant ECCE, elle fabriquait des costumes Kenzo qui ont délocalisé en Pologne. Et donc j'avais fait un tour pour voir un peu qu'est-ce qui devenait. Et parmi les familles rencontrées, j'avais rencontré l'éclure, dont il me semblait qu'ils crevaient le micro et dont, en lançant le film, je pariais qu'ils allaient crever l'écran. Par ailleurs, les éclures sont plus dans la merde que les autres familles pour une raison simple, c'est qu'il y a les deux revenus qui étaient liés. Voilà. L'homme et la femme travaillaient tous les deux chez ECCE. Et donc, ça fait chuter les revenus d'un seul coup. Tandis que dans d'autres familles, quand c'était un seul salaire et de l'emploi féminin, sans souvent pas le plus gros salaire de la famille, il y a eu des moyens de s'adapter un peu pour que ça ne devienne pas complètement la galère, quoi.
Je pense que la clé que tu as trouvée, c'est l'émotion. Nous, on est tous en train de militer dans des collectifs. Et on galère à faire des réunions nombreuses, plus ou moins nombreuses, mais là, t'as trouvé une clé, c'est l'émotion. Moi, ça me rappelle des souvenirs de grands-parents et des choses comme ça. Enfin, on a tous dans nos familles eu des cas difficiles où ils vivaient sur la corde raide. Et je trouve qu'il y a une vraie solution. En tout cas, nous, au sein du collectif Réseau Salariat de Bernard Friot, on est complètement à fond derrière toi et tu peux nous associer, complètement preneur. Ça défend complètement notre bout de bras. Merci.
Je rebondis à une intervention dans la salle, dans l'échange public, où la personne témoigne qu'elle a été très émue. Vous avez joué sur cette corde sensible, émotionnelle.
Bah oui, un film, ça doit être des émotions. C'est une comédie, donc ça doit être du rire. C'est aussi du drame social. Et c'est d'autant plus... C'est comme la douche écossaise. Il s'agit de passer du rire aux larmes et des larmes au rire et puis être balancé comme ça entre les deux, quoi. Donc évidemment, moi, je fais un film pour qu'il y ait des émotions qui passent vers les gens.
Les émotions avant la raison.
Je pense que en tout cas, il faut pas opposer les deux et que en tout cas la passion politique, si on veut remettre les gens en mouvement, dans émotion, il y a mettre en mouvement. Il faut qu'on montre un peu ce qui affecte les gens, la manière dont ils en sont affectés dans leur corps, dans leur manière de vivre et puis tout ça, que ça soit pas seulement la précarité en général ou la mondialisation en général, tous ces mots de 5 syllabes qui se terminent par T et Sion, mais qu'on puisse mettre un visage, un nom, des corps, des intonations, des silences, des mouvements, des rires sur ça, quoi. Et donc je pense que, en effet, maintenant, j'ai eu la prétention d'incarner quelque chose de social. L'incarnation de l'oligarchie dans ce film, c'est Bernard Arnault. L'incarnation des classes populaires souffrantes, ce sont les Clures. Et moi, je suis en gros une incarnation de la petite bourgeoisie, mais qui choisit de mettre ses armes, parce que quand on a fait des études et puis tout ça, et qu'on a un petit média, on dispose d'armes, d'une connaissance peut-être de l'adversaire, de choses comme ça, de venir mettre mes armes au service des classes populaires, quoi. Et c'est l'alliance des deux qui permet d'obtenir un beau combat contre l'oligarchie.
Je voudrais juste savoir, je pense qu'on est plusieurs à avoir envie d'avoir des nouvelles du CDI, et comment ça s'est passé pour eux après, quoi, du coup. Comment ça risque de se passer pour eux et elles.
Alors, comme j'ai la question à peu près tous les soirs, je peux vous faire le communiqué de presse. Non, alors ce que je réponds de manière un peu provocatrice, c'est que finalement, vous n'avez pas compris mon film. Mais vous êtes beaucoup à ne pas comprendre mon film, et je me sens quand même dans ces débats souvent comme un incompris. Parce que l'une des morales qu'on peut tirer de ce film, c'est qu'on est parfois plus fort qu'on ne le pense, et ils sont parfois plus fragiles qu'on ne le croit. Bon, là, admettons que le CDI de Serge, il y ait des difficultés. Il manque 30 à 40 000 euros pour qu'il puisse partir à la retraite sans avoir à se lever à 4 heures du matin pour porter des packs d'eau. Nous, on a recueilli 60 000 euros pour terminer le film en 3 semaines à peu près de nos lecteurs. Donc, je pense que compte tenu de la popularité naissante de Serge Clure, les 30 000 à 40 000 euros, on les récolterait en une semaine auprès de vous. Donc, vous êtes une force, et il faudrait que vous preniez un peu conscience de ça, quand même. Merci. Ça, c'est la première réponse. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on aura financé ça, son départ à la retraite, si jamais c'était nécessaire, et je ne souhaite pas que ça soit nécessaire, mais si jamais ça l'était, la deuxième chose, c'est qu'il y a encore un truc dans ce pays qui s'appelle le droit du travail. Que nous, à Fakir, on a une conseillère prud'homale comme trésorière, qu'on reconnaît un certain nombre de syndicalistes juristes, qu'on connaît des avocats en droit du travail. Donc, la suite, c'est un procès pour rupture abusive du contrat de travail. Enfin, le dernier point, c'est que j'ai jamais soupçonné Bernard Arnault d'être bête. Or, quelle erreur ce serait, quelle bêtise, que de se venger sur Serge Clure. Vous imaginez là, le scandale et les manifestations devant les marquettes du pays, quoi. Donc, au final, je pense que le contrat de travail de Serge Clure est l'un des mieux sécurisés du pays.
Petite parenthèse, on se replonge un peu dans ces années 68, les intellectuels, Sartre et autres, venaient à la porte des usines.
Mai 68 n'aurait pas été mai 68 s'il n'y avait pas eu à la fois un mai 68 ouvrier et un mai 68 étudiant. Alors on ne peut pas dire qu'il y ait eu une pleine jonction des deux, il y a eu des tensions, des contradictions, mais si jamais en France il n'y avait eu que l'un ou que l'autre, ça n'aurait pas été le mai 68 français. Le mai 68 français, ça a été quand même la conjonction des deux. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une dissociation, on va dire, des destins sociaux entre la petite bourgeoisie, c'est-à-dire les journalistes, les profs, et ainsi de suite, qui se portent quand même un peu mieux que les classes populaires.
Tu parlais de contrat de travail et de droit du travail. Profite-en bien, parce que peut-être que à la sortie de ton prochain film, tu ne pourras pas autant que ça dire qu'il est protégé par le droit du travail en France. C'est des choses qui peuvent être amenées à être changées.
Je réagis à tout comme ça. Maintenant, je suis autorisé à parler de tout. C'est un espèce de prophète. Non, j'ai deux choses à dire. D'abord, ça dépend de vous. Si jamais le code du travail, il est bousculé ou pas, ça dépend quand même de la réaction, la vitalité de votre réaction face à ce qui est en train de se produire. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense pas qu'il faille tenir des discours catastrophistes sur le thème de « on a tout perdu ». C'est une réflexion que j'avais avec un économiste qui s'appelle Christophe Rameau, qui a écrit un gros pavé qui s'appelle « L'État social » et qui est un bon bouquin, un peu compliqué, mais qui est un bon bouquin. Et en gros, si on est toujours sur le ton catastrophiste de « on a tout perdu, il ne reste plus rien de l'État-providence, la sécu, ça n'existe plus, les retraites, c'est fini », la question que se posent les gens, c'est « pourquoi on va encore se battre la fois d'après, puisqu'on nous a déjà dit qu'on avait tout perdu ?» Donc il faut aussi mesurer tout ce qu'on a peut-être, tout ce qu'on a encore et qu'il s'agit de défendre, de bien montrer que c'est là et que, voilà, il peut y avoir une bataille de perdu, mais il y a quelque chose qui a été tissé, qui demeure assez important et dont il faut montrer aussi le potentiel progressiste encore qui demeure sur les infrastructures de l'État-providence.
François Ruffin, le réalisateur de Merci Patron, est avec la complicité du Parti de gauche, l'invité du magazine.
La réalité dépasse la fiction et moi j'aurais pas pu imaginer un personnage comme celui-là. Parce que l'intermédiaire qui nous est proposé dit c'est vraiment, il nous écrit des dialogues dignes de Michel Audiard et on a l'impression qu'il est sorti des tontons flingueurs et qui voilà une espèce de franc-parler argotique qu'on n'ose plus imaginer en 2016 et puis une manière de décrire la situation avec une franchise éclatante qui fait que c'est assez jubilatoire d'entendre l'adversaire, puisque c'est un représentant de l'adversaire, nous livrer les quatre vérités sur le monde social, sur l'oligarchie, et enfin voilà, et venir quasiment être un critique de l'oligarchie, quoi.
Il vient d'où, ce garçon ?
Je pense que c'est un transfuge social. C'est un homme qui a grandi qui est issu des classes populaires, qui n'a pas le baccalauréat, qui s'est fait à la force du poignet, et qui est devenu commissaire divisionnaire des renseignements généraux à force de grimper les échelons internes, par du réseautage aussi, parce que je connais son parcours, on va se dire plus ou moins, on s'est beaucoup parlé, et qui, du coup, là, après une fois sa carrière comme grand flic achevée, se met au service du privé, en l'occurrence au service de la première fortune de France, pour mettre son savoir-faire de flic au service des riches, quoi. Mais maintenant, il est lié à ce monde des riches tout en ayant une manière d'être qui, finalement, est issue des classes populaires. Donc c'est pour ça que c'est un personnage ambigu, un personnage biface, mais il me semble que du cinéma, c'est pas un tract, c'est aussi plein d'ambiguïté. Et une autre ambiguïté, c'est peut-être que, finalement, Bernard Arnault aura fait un seul acte généreux dans sa vie. Sur cet acte généreux, il va le payer cher.
Quand il vous dit, bon, Mediapart, on s'en fout, France 2, on s'en fout, mais alors, Fakir, on a peur, on ne comprend pas, nous.
C'est parce qu'on incarne une véritable puissance.
Ça veut dire que localement, dans votre région, Fakir, c'est une institution qui est plus qu'à Nantes.
Non, je ne pense pas du tout que ça soit ça. Je pense que c'est moins le journal comme lieu d'information que comme lien avec des gens qui sont disposés à mener des actions. Et ce qui fait peur, c'est notre côté activiste et entêté. Et aussi, possiblement, catalyseur, c'est-à-dire que Fakir, on a la possibilité de faire se joindre nos abonnés, une partie du mouvement ouvrier, qui là est incarnée par Marie-Hélène Mourlard, déléguée CGT, donc on va aller chercher des syndicats et puis tout ça, des dirigeants politiques, des élus, enfin, d'être un espèce de catalyseur qui permet de faire se joindre les forces et éventuellement, une fois qu'on a opéré la jonction de ces forces, aller emmerder de manière récurrente le patron du plus grand groupe de luxe au monde. Mais c'est sûr qu'il y a, à première vue, et pour moi aussi, une surprise, c'est l'éléphant qui a peur de la fourmi, quoi, quand même. Et je pense que là où les gens jubilent dans la salle, parce que c'est éclat de rire sur éclat de rire, particulièrement à ce moment-là, c'est qu'ils se disent, mais finalement, est-ce que ces puissants ne sont pas, on disait de l'Union soviétique, un colosse au pied d'argile ? Est-ce que ces puissants ne sont pas des colosses au pied d'argile, eux aussi, pour avoir peur comme ça de petites choses, quoi ? Et donc, l'une des morales du film, ça peut être on est parfois plus fort qu'on ne le pense et ils sont parfois plus fragiles qu'on ne le croit, quoi.
D'abord, merci pour ce film, parce qu'il fait un bien fou. Effectivement, on en sort la pêche et l'envie de militer encore davantage. Mais on le voit à un moment, tu as un doute quand même sur... est-ce que tu t'es posé la question de savoir comment ce film allait se finir, comment cette histoire allait se finir et si tu réussirais à finir ce film. On le voit à un moment quand tu es avec le commissaire au téléphone, tu dis bon, il y a cette fameuse clause de confidentialité et on te voit douter. Est-ce que ce doute, il est sincère à ce moment-là ou voilà, est-ce que tu as déjà l'issue du film ?
De toute façon, je veux dire, quand on incarne une organisation aussi puissante que la mienne, comment être traversé par le doute ? Donc évidemment, le doute, on vit avec. Moi, je fais des nuits blanches en me demandant qu'est-ce que c'est le plan A ? Si le plan A ne marche pas, qu'est-ce que c'est le plan B ? Comment je retombe sur mes pattes ? Voilà, ce film est le fruit, mais je veux dire, la manière dont je mène la bataille pour que ce film sorte aussi dans les meilleures conditions, c'est le fruit de nuits blanches et de questions que je me pose sur stratégiquement, parce que c'est de la stratégie, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il y ait une mayonnaise qui prenne ou qui ne prenne pas. Donc voilà, évidemment, maintenant, si ça ne marchait pas, moi, mon plan, il y a un nom normalement, c'est le rapport de force. C'est tout.
Merci à François Ruffin, le réalisateur de Merci Patron, pour sa libre participation à cette émission et merci à Fabienne et Sylvain Clochard du cinéma Le Concorde ainsi qu'à Bertrand Tesson du Parti de Gauche pour leur précieuse collaboration.